À la chronique à vol d'oiseau cette semaine, eh bien, on va avoir la possibilité d'entendre parler d'un préféré. On reçoit M. Gérard Cyr, c'est un des trois ornithologues qui nous a donné ces belles chroniques à vol d'oiseau. M. Cyr, bonjour.
Bonjour.
Et donc, je vous ai à vous aussi demandé de nous présenter votre oiseau préféré et puis de nous en donner les caractéristiques. Pourquoi vous l'aimez tant? De quoi s'agit-il?
Mais en fait, c'est... Je dirais que c'est cette espèce-là qui m'a comme accroché à la passion des oiseaux que j'ai aujourd'hui. Là. Ben, premièrement, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais souvent dans la nature, dans le bois, je fallait souvent prendre des marches, puis j'entendais souvent un petit cri qui fait style « in, in, in ». Je me demandais c'était quoi qui faisait ça. Jusqu'au jour où je vois ça, ce petit oiseau-là, tête en bas, dans les arbres, très bel oiseau, tout petit, presque pas de cou, le dessus de la tête noire, une belle ligne sur l'œil, un petit masque en fait, là, le dessous, la poitrine rousse et le dos bleu, là, une petite queue courte. Là. C'est un petit oiseau qui se promène de haut en bas, partout, sous les branches, puis il se nourrit, il va chercher ça. Ça s'appelle la citelle à poitrine rousse.
La citelle à poitrine rousse. Alors, vous allez nous en faire la présentation plus détaillée, hein?
Ben oui, absolument. Ben, c'est la citelle à poitrine rousse, en fait, fait partie de la famille des citidés. C'est la famille des citidés, dans le monde, la répartition mondiale, c'est 27 espèces. On a deux espèces au Québec. 4 en Amérique du Nord, 3 au Canada, mais 2 espèces, la citelle à poitrine rousse et la citelle à poitrine blanche.
Okay.
La citelle à poitrine rousse, elle est comme... autrement dit, cette espèce-là, cette famille-là, ils ont toutes la même façon de se nourrir. Ils vont fouiller partout dans les écorces des arbres pour aller chercher de la nourriture, des larves ou des œufs d'insectes. Puis il va aller voir de tous les sens. Il va descendre l'arbre, monter, aller en dessous de la branche, dessus de la branche.
C'est comme un aspirateur.
En tout cas, ils sont très, très minutieux dans leur recherche de nourriture. C'est vraiment intéressant à voir. Puis,
vous dites qu'il est petit. Il est petit comment?
Ben, c'est à peu près, je dirais, j'aurais pu...
2-3 pouces?
À peu près, là.
Okay.
2 pouces et quelques. Autrement dit, c'est pas dans les plus gros oiseaux. Si les gens connaissent le moineau domestique, c'est plus petit que le moineau domestique. Là.
OK, on vous suit.
Ouais, c'est ça. Ça fait que, autrement dit, c'est un oiseau qui est quand même relativement coloré, puis c'est pas un oiseau qui est peureux. Il va faire son travail, puis il va être à côté de nous autres. Je vais juste donner une anecdote. Mon grand-père, qui était pêcheur, il avait une longue vue, un œil. Ça fait qu'à un moment donné, il m'avait prêté. Je dis, je vais essayer d'aller voir les oiseaux avec ça, parce que je savais qu'il y a des gens qui regardaient les oiseaux avec des jumelles, ces
ouais.
choses-là, puis je voulais essayer de voir ça. Ça fait que j'avais été dans le bois pour voir ça, puis à un moment donné, j'ai vu si c'était là. Je dis, je vais l'avoir de plus proche. Ça fait que j'essayais d'ajuster ça, mais ça grossissait trop, puis tout ça, à un moment donné, c'était flou. Je baisse ça, il était rendu à peu près à
quasiment sur le bout.
quasiment sur le bout du télescope. Je le voyais mieux à l'œil nu qu'à essayer de le voir au télescope.
Ça ressemble un petit peu aux mésanges, est-ce que je me trompe? Ouais, les mésanges, c'est pas peureux non plus.
C'est pas peureux non plus, ça ouais. suit. En hiver, on peut les voir en compagnie des mésanges. C'est un oiseau qui demeure à l'année avec nous, sauf une certaine population qui va migrer, mais c'est pas des grosses migrations. Là. Ils vont demeurer l'hiver ici, puis ils sont très... très facile d'approche.
Alors, si vous nous dites qu'ils vont chercher tous les insectes et les larves dans les arbres, là, l'hiver, ils font ça aussi?
Oui, ils font ça aussi, oui. C'est parce que c'est lorsqu'il y a des larves d'insectes ou des œufs d'insectes, ils sont gelés, mais ça ne dérange pas, ils vont aller chercher ça. Mais ce qu'ils vont faire, s'ils trouvent des graines ou on parlait une des semaines que je suis venu ici du Marais du Nord,
oui.
Les gens qui vont là donnent à nourrir aux mésanges à tête noire. Mais la citelle poitrine rousse vient aussi, puis elle est très, très agressive dans le sens qu'elle veut sa nourriture, elle aussi. Là.
Ah donc, la citelle à poitrine rousse, si on met de la nourriture avec du suif l'hiver, on a des chances d'en voir
oui,
aussi.
Oui, il faut avoir, par contre, être proche des habitats propices. Autrement
oui.
dit, faut être placé à un endroit où est-ce que c'est qu'il y a une forêt de conifères pas loin. Là. C'est sûr que ça va aller plus vers la forêt de conifères ou forêt mixte mature là, au niveau de la nidification, mais sauf qu'ils se tiennent dans ces mêmes milieux-là. il va sonner là-dedans. C'est sûr que si quelqu'un a une propriété, j'ai déjà une propriété pas loin d'un parc, justement, puis j'en avais des... C'était le protéine rousse qui venait se nourrir à mes mangeoires.
Vous avez parlé de ce petit chant caractéristique. Je sais qu'il y a différentes espèces d'oiseaux qui ont différents chants dépendamment du temps de l'année. Est-ce que la citelle rousse, elle a seulement un chant?
Oui, c'est ça. Elle est vraiment...
Toujours le même.
C'est toujours le même chant qu'elle va faire. C'est un petit cri nasillard qui est un peu monotone, mais c'est très distinctif.
Vous pouvez nous le faire entendre?
Oui, je peux regarder pour le faire entendre. Ça devrait pas être long. C'est ça. Normalement, lorsqu'ils sont... Il y a l'interaction avec mâle femelle où il va avoir une petite différence et ça va être plus rapide, ça va être ces choses-là. Mais si on regarde ça, on va en écouter un petit bout. Ça sera pas long.
Ah, c'est vraiment particulier.
Mm-hmm. Puis des fois, on va faire ça. Pour justement, lorsqu'il y a l'interaction entre les... il va avoir... je peux donner un autre exemple. C'est une petite variation, là, mais c'est toujours un petit chant nasillard.
Alors, vous nous dites qu'elle se nourrit principalement de larves ou de petits insectes. Les forêts de conifères ou mixtes matures, c'est là où elle préfère habiter. La citelle à poitrine rousse, votre préférée. Maintenant, j'aimerais, parce que vous nous en avez parlé, de la nidification là, pour différentes espèces d'oiseaux. Et puis, pour la citelle à poitrine rousse, de quoi on parle pour la nidification?
Bien, c'est avonicher à l'intérieur d'une cavité dans un arbre. C'est pas la même capacité que les pics à percer des trous, mais ça va le faire quand même dans des arbres morts. Des arbres où est-ce que c'est qu'ils sont plus friables, plus faciles à creuser. Puis ça peut utiliser le nid d'un pic mineur, par contre. Un autre trou déjà fait par une autre espèce ou une autre espèce d'oiseau. Puis ce qui est particulier, c'est la citelle, c'est que... Puis ça, ça a l'air d'être un comportement qui est semblable aux autres citelles aussi. Ils vont prendre la résine de conifère puis ils vont mettre ça tout le tour du nid pour éviter que
pour pas se faire mal.
Surtout les fourmis, pour éviter que les fourmis rentrent là-dedans, puis peut-être des prédateurs. Mais eux autres, ils vont arriver, puis il ne faut pas qu'ils se frottent à ça parce qu'ils vont s'enduire des résines. Donc, lorsqu'ils arrivent dans le nid, ils rentrent direct dans le nid. C'est direct, ils ne touchent pas au bord du nid. C'est assez particulier.
C'est très ingénieux.
C'est assez particulier de voir ça, là.
Ensuite, dans ce petit nid-là, on peut compter combien d'œufs?
Oh, ils pondent à peu près 5 à 6 œufs dans une couvée.
À quelle période de l'année?
Oh, dans le fond, c'est quand même relativement tôt. Là. C'est au printemps, là. C'est au début du printemps.
Au début du printemps. Ensuite, vous nous avez dit que parfois c'est juste le mâle, parfois juste la femelle. Pour la citelle rousse, qui s'occupe des œufs?
C'est la femelle qui va couver.
Okay.
La femelle est un petit peu, je n'avais pas parlé tantôt, la belle protéine rousse, le mâle avec le dessus de la tête noire. La femelle va avoir le dessus de la tête exactement semblable, c'est semblable, sauf que le dessus de la tête est bleuâtre, c'est moins éclatant et la poitrine est plutôt terne. C'est pas aussi frappant, aussi roux frappant que le mâle.
Elle a son camouflage,
elle est moins éclatante. C'est elle qui va plus s'occuper des œufs, mais c'est les deux vont travailler, mettons, pour construire le nid. Les deux vont travailler pour nourrir les jeunes. C'est un travail d'équipe. Là. C'est sûr que la durée pour la ponte des œufs, ils pondent les œufs, ça dure à peu près moins de 15 jours, moins de 2 semaines, 12 à 13 jours à peu près. Là.
Pour l'incubation.
Pour l'incubation, oui.
Alors là, les jeunes, ils sont là, puis c'est pas des jeunes qui vont être prêts à prendre leur envol tout de suite, là.
Non, c'est ce qu'on appelle le nidicole. Il va demeurer dans le nid jusqu'à ce qu'il soit capable de se déplacer par eux-mêmes en volant, comme la majorité des passereaux. Là. Ils quittent après 18 à 21 jours, ils sont prêts à quitter le nid. Puis à ce moment-là, ils vont se promener, ils vont suivre. Ça va être des groupes familiaux qui vont se promener pour essayer de trouver de la nourriture. Puis il y a beaucoup d'interactions, des petits cris entre les membres de la même famille. Là.
Est-ce que cette espèce d'oiseau-là, la citelle à poitrine rousse, est-ce qu'ils sont comme en colonie? Est-ce qu'il y en a plusieurs de la même espèce dans le même coin?
Ben, ils vont nicher dans les mêmes habitats, mais ils sont quand même indépendants. Ah, c'est pas, okay. Ils nicheront pas en groupe à un endroit. Okay. Ils ont leur territoire, puis c'est seulement un couple qui a son territoire.
Je comprends. Ouais. Alors, vous nous avez dit au cours des chroniques cet été qu'il y avait dans certains endroits des pertes d'habitat et tout ça. Est-ce qu'il y a des dangers pour la cité La Poitrine Rousse?
Elle est quand même... c'est plus un oiseau de forêt boréale, si on veut. Il n'y a pas vraiment de...
Pour l'instant, ça va
bien. Pour l'instant, ça va bien. C'est pas un oiseau qui a été ciblé comme étant à caractère particulier au niveau de la conservation. Là.
Est-ce qu'il y a une heure plus favorable qu'une autre pour l'observer?
Ben, le citelle, elle peut être observée à toute heure. C'est sûr que, comme toute espèce d'oiseau, quand on va observer les oiseaux plus de bonne heure le matin, on a plus de chances d'entendre plus grand nombre d'oiseaux, dont la citelle aussi. Mais différentes marches que va aller prendre, mettons un exemple au parc Sauveau, il va en avoir, je rencontre à Danton, c'est pas le meilleur habitat pour ça, mais il y en a quand même qui se rencontrent là. Je vais la rencontrer, puis peu importe l'heure du jour que j'y vais, elle va être active, sauf que je ne l'entendrai pas nécessairement crier ou chanter.
Gérard Cyr, ça a été un plaisir de vous avoir comme chroniqueur cet été. Merci d'avoir pris le temps de nous partager votre passion.
Merci.
Alors, l'automne s'en vient, il y a des activités qui s'en viennent pour le Club des ornithologues, j'imagine. On va en entendre parler. Si vous avez des invitations à faire à l'auditoire, ça va me faire plaisir de les faire connaître. Merci beaucoup.
Okay. Merci, bonjour.